Le but de mon propos cet après-midi est simplement d'introduire ce temps de vénération aux reliques. Donc, je suis pas sûr que tout le monde. Je vois des parodiens, des gens qui habitent ici, quoi, qui connaissent bien Sainte Marguerite Marie. Et enfin voilà. Mon seul objectif en vous parlant maintenant, c'est de nourrir, d'étoffer, d'apporter de l'épaisseur, disons, à cette démarche de vénération, donc s'approcher de Sainte Marguerite Marie, de ses reliques, et se confier à son intercession. Par conséquent, eh bien, il y aura deux parties dans mon propos. Une première partie sur le culte des reliques, et pourquoi, au fond, des reliques, pourquoi cet attachement dans l'Église catholique aux reliques. Et puis, dans un second temps, je reprendrai quelques points de la vie de Sainte Marguerite Marie, quelques aspects de la grâce qui a marqué sa vie et qui reste attachée justement à sa personne, et donc pour pouvoir nourrir notre démarche. Voilà. Alors, la première chose que je voudrais faire, comme je le disais, c'est de parler un peu des reliques. Les reliques, ce sont des restes humains. Donc ici, concrètement, ce sont des os. Dans le reliquaire qui est présent devant vous, il y a deux côtes, les premières côtes de Sainte Marguerite Marie, et puis deux clavicules. Et aussi un morceau de son cerveau, parce que quand on a exhumé son corps, son cerveau était encore tout frais, comme au jour de sa mort. Et depuis, il a séché, de fait, mais c'est une conservation miraculeuse d'un organe qui normalement disparaît. Et on est particulièrement attaché à souligner le fait que les côtes et les premières côtes de Sainte Marguerite Marie sont présentes, parce que, comme vous savez, Sainte Marguerite Marie a échangé son cœur avec Jésus. Jésus a pris son cœur, l'a plongé dans le sien, le lui a remis, et Jésus lui dit, pour que tu sois sûr que tu n'as pas rêvé ce moment. Parfois, dans la vie spirituelle, nous vivons des grâces, des moments forts, et puis les années passent et on se dit, est-ce que c'était si réel que ça? Est-ce que vraiment le Seigneur m'a parlé? Est-ce qu'il a vraiment touché mon cœur? Après tout, tout ça semble un peu empoussiéré, ou bien ça s'est fané avec le temps. Et Jésus lui dit, non, mais pour que tu sois sûr que tu n'as pas rêvé, tu garderas toute ta vie une douleur aux côtés. Et de fait, elle va garder toute sa vie cette douleur, cette forme de brûlure qui se réveillera particulièrement les premiers vendredis du mois, comme l'attestation de cet échange de cœur. Et donc, les côtes, elles ont été au plus près du cœur, de ce cœur plongé dans le cœur de Jésus, enflammé par le cœur de Jésus. La vénération des reliques, elle remonte au commencement de l'Église. Au départ, on célèbre l'Eucharistie sur les reliques, et sur les reliques des martyrs. Ça commence comme ça, avec le culte des martyrs, c'est-à-dire la place que ces hommes et ces femmes qui ont préféré la foi, qui ont préféré la confession du nom de Jésus à leur propre vie, comment on veut garder la mémoire de ça? Et pas seulement la mémoire, c'est qu'il a habité dans ces hommes une force supérieure à leur propre vie. Ceux qui ont accepté de mourir martyrs, de dire « il y a quelque chose de plus grand que ma vie et je suis prêt à mourir pour ça », c'est que le Christ est le Fils de Dieu, qu'il nous a aimés, qu'il est mort et ressuscité pour nous. Et cette confession, cette parole, cette foi, elle est plus importante que ma propre vie. Et on garde les restes humains, donc les restes de la vie terrestre, de ceux qui ont considéré qu'il y avait, dans leur cœur terrestre, dans leur cœur de chair, dans leur être de chair, quelque chose qui habitait, quelqu'un qui habitait, enfin une puissance vivante qui était là et qui était plus grande que leur propre vie. Donc, les reliques des martyrs sont conservées avec beaucoup de soin. On célèbre l'Eucharistie, ça veut dire que on célèbre le sacrifice du Christ sur les restes de ceux qui ont sacrifié leur vie, qui ont été profondément en communion avec le sacrifice du Christ, puisqu'ils ont pu s'y unir jusqu'à préférer la vie du Christ à leur propre vie, comme Jésus préfère l'amour du Père à sa propre vie, ou l'amour de nous aussi dans l'amour du Père à sa propre vie. Et le culte des martyrs, vous savez, au départ, la fête de la Toussaint, c'est la fête de ces nombreux, au départ, c'est la fête de tous les martyrs, tous ces martyrs qu'on ne peut pas nommer tellement il y en a. Quand on fait, par exemple, hein, les martyrs de Corée, on parle d'André Kim, et puis, je sais plus comment s'appelle l'autre, enfin bon, et leurs compagnons, ils sont au moins 80 dans mon souvenir. Quand on parle de Charles Lwanga, et puis les martyrs d'Ouganda, bah, c'est pareil, on garde quelques noms, mais il y en a beaucoup qu'on associe simplement sans les nommer, parce qu'ils sont trop nombreux. La fête de la Toussaint, c'est ça au départ, c'est la fête des martyrs. On garde la mémoire des martyrs. À Rome, le Panthéon, à partir de la fin du IVe siècle, il n'est plus un temple païen, puisque la religion catholique devient la religion de l'Empire, et il sera donné au pape, au VIe siècle, je crois, et le pape va en faire une église pour tous les martyrs. Et, chose impensable, dans la ville de Rome, on va rapatrier des charrettes, 24 charrettes d'ossements, de tous les martyrs de Rome, pour les mettre au Panthéon. Parce que c'est Notre-Dame des martyrs, et alors que c'était un sacrilège que de mettre des ossements humains dans un temple ou dans un lieu sacré, et même dans la ville de Rome, tous les cimetières étaient évidemment à l'extérieur, et c'est pareil d'ailleurs dans la mentalité juive, hein, les cimetières sont à l'extérieur, le mort rend impur, et bien là, au contraire, on amène tous ces ossements, parce que ces hommes et ces femmes, dans leur chair, ont porté la vie de l'esprit, ont porté le charisme que Dieu leur a donné, ils ont porté le visage du Christ, cela a transfiguré leur vie et donc touché aussi leur corps, parce que, en tant que personne, nous sommes un, âme, corps, esprit, et donc, eh bien, on ramène ça. Merci Jésus. Et vous voyez, on contemple dans les martyrs l'accomplissement de cette parole qui est, en tout cas à mon goût, peut-être pas au vôtre, en tout cas ce que je considère pour ma part, être la plus belle promesse de l'Évangile. Quand Jésus, après être allé chercher l'amour dans le cœur de Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Jean chapitre 21, versets 15 à 17, hein, « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» Et Jésus qui montre que la seule quête qu'il a, c'est de venir chercher l'amour dans notre cœur. Et après avoir dit cela, Jésus fait cette promesse à Pierre, « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour aller là où tu voulais. Un jour viendra, un autre que toi te passera la ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas aller. » Ainsi, il prédisait par quel genre de mort Pierre glorifierait le Seigneur. Par la mort du martyr qui va glorifier le Seigneur. La plus belle promesse de Jésus, c'est de dire « Un jour, ta volonté propre sera tellement éteinte et tu seras tellement disponible à la volonté du Père, à ma volonté, que tu pourras marcher jusqu'au martyr. » C'est cette transfiguration qui n'est pas seulement qui est une transfiguration de tout l'être et qui touche et l'âme et le corps qu'on célèbre dans le culte des martyrs et par extension, par suite, dans le culte des reliques. Accueillir les reliques, c'est pas seulement accueillir les restes de Sainte Marguerite Marie qui nous permettent de faire mémoire de sa vie, mais c'est accueillir à travers des restes de son corps qui a été transfiguré par la grâce de Dieu, eh bien accueillir aussi le charisme qu'elle a porté pour l'Église. Comme dit Saint Paul, nous recevons la grâce de Dieu pour le bien de tous. Sainte Marguerite Marie a été extrêmement favorisée par la grâce de Dieu depuis son berceau. Jésus, dans la première grande apparition, lui dit ça, hein, « Je t'ai choisi dès le berceau, je t'ai accompagné, je t'ai enseigné, je t'ai préparé, je t'ai formé pour les grandes révélations de mon cœur. » Et de fait, ce sont les grandes révélations qu'elle va recevoir et qui vont profiter non seulement à toute l'Église, mais à des millions de personnes qui ont vénéré le Sacré-Cœur et qui en ont reçu de nombreuses grâces de consolation, d'amour et de piété. Alors, voilà, c'est pourquoi aussi je vais prendre le temps de souligner quelques aspects de la vie de Sainte Marguerite Marie, parce que d'une certaine manière, c'est cela qui nous est rendu accessible. Quand la grâce de Dieu entre dans notre monde, c'est comme l'éternité qui fracture le temps et qui y dépose quelque chose qui n'appartient pas au temps, qui entre dans le temps, mais qui n'est pas enfermé dans le temps et qui donc reste accessible à tous les points du temps. C'est évidemment vrai par excellence pour la vie de Jésus. Si on contemple les mystères de la vie de Jésus, on en a parlé ce matin dans la conférence, enfin Monseigneur en a parlé ce matin, mais si on contemple les mystères de la vie de Jésus, comme on le fait dans le chapelet, comme on le fait dans la retraite des exercices de Saint Ignace, comme on le fait quand on contemple l'Évangile, c'est parce que ces mystères, ils nous sont accessibles. Pas seulement pour nourrir notre pensée, pas seulement pour nous donner un récit édifiant, que notre intelligence digère et trouve éclairant pour le chemin de notre vie, mais parce que nous pouvons nous laisser saisir par les mystères de la vie de Jésus, nous-mêmes entrer dans ces mystères, nous-mêmes nous laisser inviter et être pris par toute la grâce qu'ils contiennent. Et c'est pareil pour la vie de Sainte Marguerite Marie. Elle a reçu la grâce de Dieu, cette grâce elle l'a reçue pour le monde, et elle l'a reçue aussi pour nous, qui ne sommes pas ses contemporains, mais qui venons après elle, et qui pouvons nous en approcher à travers la présence de ses reliques. Alors, je vous dis encore deux, trois choses. La première, je vous cite un passage de l'Ancien Testament qui atteste, qui est aussi une des sources du culte des reliques. Pas la première source. La première source, c'est vraiment le témoignage des martyrs. Mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. C'est dans le deuxième livre des Rois, chapitre 13, versets 20 et 21. Élisée, le grand prophète, successeur d'Élie, Élisée mourut et on l'ensevelit. Point. Or, chaque année, des bandes, donc des brigands, des bandes venant de Moab pénétraient dans la région. Il advint que des gens qui portaient un homme en terre aperçurent une de ces bandes. Ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élisée et partirent. L'homme toucha les ossements d'Élisée, il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Donc vous entendez, hein, on a enterré le prophète Élisée, il se fait que bien des années après, dans la région, il y a des problèmes avec des brigands, on est en train de mener un homme en terre, et il y a des brigands qui arrivent, on ne sait pas quoi faire, on est très démunis, hop, il y a justement le tombeau d'Élisée qui est juste à côté, on balance le corps dans le tombeau d'Élisée, et on se sauve pour se mettre à l'abri. Et l'homme qu'on mène en terre retrouve vie en touchant les ossements d'Élisée, le prophète, qui dans sa vie, de fait, avait déjà ressuscité quelqu'un. Une autre chose qu'on peut signifier, vous voyez, c'est comment dans la vie de Jésus, tout le monde cherche à le toucher. Mais pas seulement Jésus, les apôtres aussi, hein. Et on dit même l'ombre de Pierre, donc c'est même plus son corps, c'est seulement l'ombre de son corps, et ben guérissait tous les malades qui étaient sur son chemin. Il y a, à cause de l'unité de l'âme, du corps et de l'esprit, à cause de l'incarnation, ou grâce à l'incarnation, de par la vertu de l'incarnation qui est au cœur de notre foi, eh bien nous croyons que la grâce de Dieu, elle nous atteint jusqu'aux cellules les plus intimes de notre corps. Alors voilà pour poser le culte des reliques et pour poser le cadre aussi de notre démarche de cet après-midi. Maintenant, je voudrais évoquer quelques étapes de la vie de Sainte Marguerite Marie et pour nourrir notre prière. La première étape que je veux rappeler, qui est bien connue, c'est ce vœu qu'elle fait à l'âge de 5 ans, un vœu de pureté, de perpétuelle chasteté. Et elle explique qu'elle ne comprend pas ces mots, mais que pendant plusieurs jours, ces mots l'ont habité. Et que, par conséquent, à un moment, et c'est au moment de la consécration à la messe, moment privilégié, à ce moment-là, elles se sont poussées d'exprimer ce vœu qui, une fois de plus, l'habite depuis plusieurs jours. Elle se laisse porter par cette inspiration qu'elle reconnaît, elle a 5 ans, donc elle ne fait pas un grand raisonnement, hein, mais qu'elle reconnaît être de l'Esprit-Saint, et elle se livre à cette inspiration. Et Jésus, de fait, lui confirmera plus tard que c'était bien lui qui lui inspirait cela par son esprit et qu'il a travaillé déjà, qu'il travaillait déjà son cœur pour protéger dès sa plus tendre enfance sa pureté et se la conserver pour lui. Mais voilà, elle se livre aux inspirations de l'esprit. C'est quelque chose qu'elle gardera très présente au cœur et qu'elle répétera de nombreuses fois à ses novices. Quand l'esprit frappe à ta porte, ne diffère pas ta réponse. Dis-lui oui. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut, une grâce qu'on peut lui demander, parce que dans notre vie, nous faisons l'expérience de pensées, d'images, de mouvements qui saisissent notre cœur ou notre esprit. Et on se dit, tiens, je pourrais faire ça. Je pourrais appeler telle personne pour la soutenir. Je pourrais visiter telle autre. Je pourrais, enfin, etc., etc. Nous faisons cette expérience que l'Esprit Saint frappe à notre porte. Mais Sainte Marguerite Marie nous dit, elle le dit comme ça à ses novices, mais bien d'autres l'ont dit, jusqu'à Sainte Faustine le dit aussi comme ça. Elle dit, si nous reportons notre obéissance, si nous fermons nos oreilles à ces inspirations de l'Esprit Saint, eh bien l'Esprit Saint finit par se lasser. Alors je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, ou si c'est nous qui devenons de plus en plus insensibles, mais en tout cas, c'est plutôt comme ça que Sainte Marguerite Marie parle, elle dit, le Seigneur finit par se lasser, et finalement, il ne frappe plus à notre porte. Alors demandons, vous voyez, c'est une grâce qu'on peut demander, plus exactement, à Sainte Marguerite Marie, d'être sensible à la manière dont le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, la manière dont l'Esprit meut notre cœur, comment il s'invite dans nos pensées, y être sensible et ne pas différer notre obéissance. Un deuxième point de sa vie, c'est Sainte Marguerite Marie mentionne dans son autobiographie la mort de son père à 8 ans. Et il y a beaucoup d'autres, la mort va la frapper de nombreuses fois, c'est elle a deux frères qui vont mourir aussi plus tard, plutôt quand elle a autour de 18 ans, et ça, elle n'en parle pas du tout. Et à l'époque, de fait, la mort est beaucoup plus commune et familière qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais si elle mentionne la mort de son père, sans en dire beaucoup plus, je crois que c'est parce que c'est quelque chose qui va la marquer profondément. D'abord parce que le climat familial va beaucoup changer à partir de ce moment-là, mais aussi, je pense, parce qu'elle se rend compte de l'impact que la mort de son père a eu sur sa vie. Une fois de plus, elle reste très pudique et elle ne développe rien. Mais en revanche, dans ses écrits, elle manifeste une forme, on pourrait dire, d'insécurité. Insécurité affective ou de manque de confiance en elle, parfois. Enfin, une forme d'insécurité comme qui résulte, vous voyez, de cette blessure, on pourrait dire. Et ce qui est beau, c'est de voir que malgré cela, malgré cette insécurité, malgré cette fragilité, eh bien, elle est devenue une très grande sainte. Et du coup, c'est quelque chose aussi pour lequel on peut, qui peut nourrir notre demande d'intercession, de se dire que nous aussi, dans notre vie, des événements nous ont fragilisés, nous rendent peut-être moins aptes à porter un regard juste sur nous-mêmes ou sur les situations, que nous en gardons quelque chose qui fragilise notre volonté, qui impacte nos réactions. Et cela ne nous empêche pas de pouvoir être des saints et des grands saints. Et Sainte Marguerite Marie peut être une sœur qui nous protège et nous conduit, enfin nous éclaire aussi. En tout cas, on peut lui confier ça. Ensuite, comme vous le savez, Sainte Marguerite Marie a été très maltraitée au sein de sa famille, victime de violences. Pas beaucoup de violences, en tout cas pas de coups, disons, mais des violences quand même physiques, parce qu'elle est enfermée, elle est, etc. Elle est maltraitée, mais même plus tard, elle va être victime de chantage, de pression familiale, et de refus, en fait. De refus, on lui refuse de pouvoir répondre à l'appel de Dieu sur elle. Si bien qu'elle va rentrer au monastère, elle a déjà 24 ans, elle entre en même temps qu'une autre postulante qui a 14 ans. Vous voyez l'écart, quoi, hein, elle entre tard au monastère, à cause de ça. Et on peut vivre ça, nous aussi, dans nos propres familles, dans nos entourages, la difficulté d'être accueilli avec ce que nous portons, avec la manière dont nous vivons notre foi, ou notre foi tout court, d'ailleurs, parfois, c'est difficile de la vivre dans nos familles. On peut vivre des relations de pression, des relations de chantage, on peut avoir vécu aussi des maltraitances beaucoup plus graves. Et ça aussi, Sainte Marguerite Marie a une oreille attentive. Elle a connu ça. Elle, ça a duré environ 4 ans dans sa vie. Ça a été circonscrit dans le temps. À la fois, c'est pas 3 jours, et en même temps, c'est pas toute sa vie. Mais elle connaît cela, et son cœur est sensible à ces souffrances qui peuvent habiter notre cœur. Elle a connu aussi, vous le savez, pendant la même, enfin pendant 4 ans aussi, un peu décalée par rapport à la maltraitance, mais elle a connu la maladie, et particulièrement la maladie sans espoir. C'est une chose d'être malade, c'est une chose d'être sans espoir de pouvoir guérir. Pendant, a priori, de 10 ans à 14 ans, ou de 9 ans à 13 ans, enfin, c'est jamais très facile de savoir avec Marguerite Marie, mais en tout cas, elle est alitée, et les médecins de l'époque ont dit « il n'y a aucun espoir de guérison ». Elle va mourir, et à plus ou moins court terme, et elle mourra dans son lit, sans pouvoir jamais plus se lever. Et pourtant, Sainte Marguerite Marie ne perd pas l'espérance. Elle ne perd pas l'espérance de... Enfin, la vie ne s'éteint pas de son cœur. Et un jour, elle se sent poussée à demander, au bout de 4 ans, à demander sa guérison à la Vierge Marie. Vous savez qu'elle obtiendra cette guérison de manière miraculeuse par la Vierge Marie, dans une sorte aussi de négociation, si on peut dire, puisqu'elle promet à la Vierge Marie de devenir religieuse si elle est guérie. Mais en tout cas, voilà, on peut connaître des mal pour soi-même la maladie sans espoir ou dans notre entourage. C'est quelque chose qu'on peut lui confier. Elle va vivre aussi, elle va goûter de manière particulière le combat spirituel. Et de différentes manières, je souligne surtout celui qu'elle va vivre entre 17 ans et 19 ans. Sainte Marguerite Marie a retrouvé la santé, elle a retrouvé l'usage de ses jambes, de son corps, et quelques années après, eh bien, elle remarque bien qu'elle est une belle jeune fille, sa famille a des moyens, et donc aussi de quoi l'habiller, puis il y a les bals, elle fait partie d'une forme, elle fait partie des notables de la région, si bien que les familles comme ça se rencontrent, et elle fait cette expérience de l'écart qui va exister entre le penchant de sa nature, ses tendances naturelles, l'appel de sa nature et de l'autre côté, l'appel de Jésus. Elle sait que Jésus la désire pour être son épouse, pour être tout à lui. Elle le sait parce qu'elle a fait ce vœu à 5 ans, parce que sa guérison miraculeuse a été l'occasion d'un engagement, mais pas seulement ça. C'est pas seulement elle se dit dans sa tête, ah, peut-être un jour quand même je me suis dit, j'ai eu un signe, je sais pas, bon. Mais elle explique, Jésus me tirait comme par des cordes. Je sentais son amour qui se fichait dans mon cœur comme des flèches. Elle sent que Jésus la veut, la désire, et elle l'exprime de manière très sensible. Mais de l'autre côté, elle dit, ma nature était portée au plaisir, à la distraction. Je voulais plaire, je voulais briller dans ce monde. Et alors, elle explique comment elle est enfermée. Parce que chaque soir, elle se retrouve en se représentant Jésus comme un Christ aux outrages. Jésus qui est marqué dans sa chair par ses atermoiements, par ses hésitations, par ses refus même. Et elle voit Jésus qui souffre. Et chaque soir, elle est prise par la culpabilité au point que même elle se fait du mal. Et elle se dit, mais il faut que je change. Et tous les matins, elle remet sa belle robe et elle est repartie. Monde, me voici. Et pendant 2 ans, elle se trouve prise, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le décrit, je sais pas si c'est tous les jours comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle le décrit. Tous les jours, elle est prise dans ce cycle, vous voyez, cette espèce d'enfermement. Et nous aussi, nous pouvons connaître ça. Des enfermements. Parfois, c'est l'enfermement de l'addiction. Parfois, c'est d'autres enfermements qui sont liés. Elle, c'est clairement lié au refus de la volonté de Dieu. Elle pense à s'engager dans le mariage et à partir de ce moment-là, elle est prise elle est enfermée dans ce cycle. Nous aussi, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver de savoir très bien ce que Dieu veut de nous, ce qu'il attend de nous, et de ne pas savoir le faire. Ça peut nous arriver d'être prisonniers de tendances, de la nature, d'être prisonniers de la chair, d'être prisonniers de désirs contre les qui affectent notre volonté au point que on n'arrive pas à s'en sortir. La Sainte Marguerite Marie, elle a vécu ça. Elle n'a pas vécu ça pendant juste une semaine. Elle l'a vécu pendant 2 ans. Et elle a réussi aussi à s'en sortir. On peut vraiment se confier à elle, confier ses combats, s'ils habitent aussi notre cœur et notre vie. Elle va vivre un autre combat qui est celui du dénigrement. C'est-à-dire, elle entend cette voix qu'elle reconnaîtra comme étant la voix du démon un peu plus tard, quand elle écrit son autobiographie. Et elle entend cette voix qui lui dit « Mais tu sais, Marguerite, tu es nulle. Tu vas rentrer au monastère. » mais jamais tu n'arriveras à durer. Alors, eh ben, tu sortiras et ce sera la honte pour ta famille, ce sera la honte sur toi, ce sera, ta vie sera gâchée, mais pas seulement la tienne, celle de tes proches qui seront humiliés par cet échec. Et comme c'est une femme lucide sur sa misère, une femme aussi certainement un peu scrupuleuse par certains aspects, elle se laisse faire par cette voie, elle y croit. Et du coup, elle retarde aussi son entrée au monastère. Et parfois dans notre vie, bah, c'est un peu pareil. Il y a cette voix qui vient et qui nous dit, mais tu sais, t'engager, te consacrer au Sacré-Cœur, t'engager à la sainteté, mais combien de temps ça va durer? Est-ce que t'as pas déjà essayé d'ailleurs? Tu n'y arrives pas. Toi, devenir saint, devenir sainte. Peut-être monsieur le curé, peut-être les religieuses, tout ça, mais le Concile Vatican II nous invite tous à la sainteté. Il dit, puisque nous sommes baptisés, le Christ a tout fait pour nous. Il ne manque rien au don du Christ qu'il a fait pour moi, pour que je devienne saint. Et si je dis, ben, la sainteté, c'est pour mon voisin, je dis, en fait, le Christ a plus fait pour mon voisin que pour moi. En fait, il n'a pas assez fait pour moi. Et Jésus me dit, j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait. Je t'ai aimé jusqu'au bout. Et plus loin même que jamais tu ne pourras imaginer. Et tu peux devenir saint en t'appuyant sur cet amour. Tu peux t'appuyer saint, tu peux devenir saint si tu t'appuies sur la grâce que je te donne. Et toutes les paroles contraires à cela, eh ben, c'est cette petite voix qui dit, bon, tu sais, être un chrétien normal comme ça, c'est bien déjà. Alors, c'est quelque chose qu'on peut confier aussi au Seigneur. Notre désir, par Sainte Marguerite Marie, le désir de la sainteté, le désir de suivre vraiment le Christ dans ce qu'il veut nous donner, et que nous ne mettions pas de limites en nous regardant trop nous-mêmes et surtout en nous laissant détourner par le démon. Quand Sainte Marguerite Marie entre au monastère, la communauté de sœurs dans laquelle elle entre est une communauté tout à fait dysfonctionnelle. Elle entre dans une communauté religieuse où la charité s'est attiédie, où la vie religieuse elle-même s'est délitée, au point que ça fait des années que quand on cherche une supérieure au monastère de la Visitation, on est obligé d'aller la chercher ailleurs parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord ensemble sur qui on pourrait choisir entre nous et du coup on a besoin d'aide. Et c'est très intéressant de voir ça parce que le Seigneur, il a choisi Sainte Marguerite Marie pour qu'elle porte beaucoup de fruits, quoi. Il l'a choisi elle et depuis le berceau pour une mission très spéciale. Et pourtant il la met dans un milieu qui ne fonctionne pas. Un milieu dysfonctionnel. Parfois, nous, on se dit, oui, mais mon problème, c'est que ça ne va pas autour de moi. Si la paroisse ceci, si la communauté cela, si dans ma famille, je ne sais pas quoi. Enfin, si le milieu dans lequel je vis était plus porteur, tout irait mieux. Eh bien, Sainte Marguerite Marie, c'est tout l'inverse. Elle arrive ici, Jésus la plante dans un milieu de vie qui ne fonctionne pas, qui n'est pas porteur. Et pourtant, pourtant, à l'école de Jésus et par l'amour de Jésus, elle va devenir une très grande sainte. Alors ça aussi, on peut le confier, vous voyez, si on trouve que, ben, justement, autour de nous, on manque d'appui, ou bien que autour de nous, le climat est un peu délétère, qui nous entraîne vers le bas. Et ben, confions-nous à elle, parce que, eh bien, cela n'a pas été un obstacle pour elle. Un des aspects aussi qui est très spécifique dans la vie de Sainte Marguerite Marie, c'est que sa vocation est très claire. Jésus l'a appelée pour être apôtre du Sacré-Cœur. Jésus lui dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses connaître, aimer et honorer le Sacré-Cœur. Et quand Sainte Marguerite Marie, en juin 1675, se retrouve devant Jésus et qu'elle lui dit « Mais Seigneur, moi je veux t'aimer, dis-moi comment t'aimer. » Jésus lui dit « Mais aucunement autrement que ce que je t'ai déjà dit plusieurs fois, c'est être l'apôtre de mon Sacré-Cœur. » Et donc pour elle, c'est très tracé. Et parfois, ben nous, dans notre vie, c'est moins simple. Nous ne savons pas bien quelle est notre place dans l'Église, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, comment porter du fruit. Et ben voilà, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on peut lui confier, parce que ben juste elle, dans sa vie, ça a été tout tracé. Elle a vraiment reçu cette vocation, ou cet appel dans l'appel, et qu'on peut lui demander, et ben nous aussi, d'être éclairés sur ce que le Seigneur attend de nous, sur les fruits qu'il désire que nous portions dans son Église, dans le monde. Sainte Marguerite Marie aussi un autre aspect de sa vie, c'est que tout au long de sa vie, en tout cas au moins après 1675, le Seigneur va lui amener des âmes en continu. Des âmes de vivants ou des âmes de personnes défuntes, et Jésus les lui amène pour qu'elles prient et qu'elles s'offrent pour elles. Le premier, c'est un bénédictin qui est décédé, et Jésus désire que cette âme du purgatoire passe au ciel. Et donc, il demande à Sainte Marguerite Marie d'offrir ses communions, d'offrir des sacrifices, d'offrir des prières, et de vraiment porter, par l'engagement de tout son être et de toute sa vie, de porter le salut de cette personne. Pas le salut éternel, elle est au purgatoire, donc elle est déjà sauvée, mais le passage au paradis. Et parfois, ce sont des personnes défuntes qui, donc, sont au purgatoire et peuvent passer au ciel. Parfois, ce sont des personnes vivantes qui sont à un moment tout à fait crucial de leur vie. Disons, il existe pour ces personnes un risque de s'éloigner de manière durable, si ce n'est définitive, du chemin de Dieu. Et Jésus amène ces âmes et dit, ben, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour elles, parce que ces âmes sont en danger. Et parfois, ça dure quelques jours, parfois, ça dure plusieurs mois. Et Sainte Marguerite Marie répond fidèlement à cet appel de Jésus. Alors, ce qu'elle a fait sur la terre, soyez certains qu'elle le poursuit avec encore plus de fécondité au ciel. Si vous avez des âmes que vous portez, que ce soit des âmes de personnes défuntes et que vous avez ce désir qu'elles passent au ciel, si vous avez, eh bien, dans votre entourage, dans votre famille, des personnes que vous sentez en danger spirituel, ben, n'hésitez pas à les confier à Sainte Marguerite Marie. Comme je vous le dis, elle a fait ça toute sa vie sur la terre. Elle continue à le faire au ciel. Sainte Marguerite Marie est aussi une grande amie de l'Eucharistie. Je ne vais pas en dire trop parce qu'on pourrait en parler des heures, ça. Mais toute sa vie a été saisie par l'Eucharistie. Quand elle est encore jeune adolescente, elle explique comment elle est. Ce qu'elle désire, c'est être présente à Jésus présent dans l'Eucharistie. Elle a peu la possibilité d'aller à l'église parce que précisément, on le lui interdit. Mais elle s'enferme dans des coins cachés, ou bien elle se met sur ce rocher d'où elle voit l'église. Et là, elle pense à Jésus qui est présent, à Jésus qui est là dans l'Eucharistie. Dans l'église, il y a le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a l'hostie que le prêtre a consacrée. Il y a Jésus qui est présent. Il y a Jésus qui est là. Et alors, elle reste des heures et elle dit « Mais je serais restée là des jours et des nuits sans manger, sans boire, à me consacrer tout entière à la présence de Jésus qui est dans l'Eucharistie. » Et une fois de plus, elle n'est pas devant le Saint-Sacrement exposé. Elle n'est même pas à côté du tabernacle. Elle est dans sa maison, dans un petit recoin. Elle est sur un rocher. Mais elle se dit « Mais c'est tellement grand l'Eucharistie. » Et vous voyez ça, elle ne l'a pas décidé par elle-même. Elle s'est pas dit un jour « Ah oh, tiens, quand même, l'Eucharistie, c'est comme un grand mystère si je me consacrais à ce mystère. » Mais elle a été saisie par ça. C'est vraiment une grâce qu'elle reçoit de Dieu, une mission qu'elle reçoit de Dieu, quelque chose qui va saisir sa vie et qui ne la quittera jamais. Elle est une femme profondément eucharistique. Sa vie est profondément eucharistique. Et Jésus, d'ailleurs, l'a choisie pour se plaindre à elle de sa soif d'être aimée dans l'Eucharistie, de son désir d'être aimé dans l'Eucharistie. Et Jésus lui a montré aussi à de nombreuses reprises comme il lui est douloureux souvent d'être reçu dans l'Eucharistie par des cœurs qui ne sont pas disposés. Elle a vu, Jésus est venu de nombreuses fois la visiter pour lui dire « Mais regarde comme je suis mal reçu, regarde comme je souffre là, regarde comme cette âme a renouvelé toutes les souffrances de ma passion en me recevant tellement elle était mal disposée. » Alors, c'est quelque chose qu'on peut demander à Sainte Marguerite Marie, d'être renouvelée dans l'amour de l'Eucharistie, d'être renouvelée dans le fait d'être saisie par ce miracle si grand de la présence de Jésus qui vit dans l'Eucharistie, qui aime dans l'Eucharistie, qui s'offre dans l'Eucharistie, qui est, enfin bon, etc., etc. Comme je vous dis, ça ce serait beaucoup trop long, mais c'est une grâce à demander parce que c'est une grâce qu'elle donne et qu'elle aime donner. Évidemment, je finis avec deux choses. Sainte Marguerite Marie a aimé à la folie. Si vous désirez aimer Jésus, si votre cœur vous pousse à aimer Jésus et que vous vous dites « Mais comment faire ? Je ne sais pas comment faire. » Demandez à Sainte Marguerite Marie. Elle a aimé Jésus à la folie. Elle a cherché tous les moyens pour le vivre et pour le manifester. Au point qu'un jour, Jésus lui dit « Mais tu es folle. Tu es folle de faire ça. » Tellement elle cherche des moyens, tout ce qu'elle peut. Elle ne se laisse pas démonter. Elle dit à Jésus « Moi, je suis folle. Toi, tu es fou. C'est toi qui nous as aimés à la folie. C'est toi qui, le premier, a donné ta vie sur la croix, qui est allé jusqu'au bout, alors que même tu savais que tu aurais si peu de retour. » Et Jésus lui dit « C'est vrai, tu as raison. Moi, j'ai aimé l'humanité à la folie. » Et il lui rajoute « Mais je ne veux plus que tu sois si extrême dans les manifestations de ton amour. Je veux que tu m'aimes avec mon cœur. Je vais te le donner, mon cœur. » Elle a aimé Jésus à la folie. Et Jésus a été tellement touché par ça qu'il lui a donné son propre cœur pour qu'elle puisse l'aimer avec son propre cœur. Si nous voulons aimer Jésus, demandons à Sainte Marguerite Marie, confions-nous à son intercession. Enfin, bien évidemment, Sainte Marguerite Marie est l'apôtre du Sacré-Cœur. Elle a vécu cet échange des cœurs avec Jésus dont je vous parlais. Elle a reçu cette flamme qui jaillissait du cœur de Jésus et qui l'a tout embrasé dans la deuxième grande apparition. Elle a été choisie par Jésus pour être l'apôtre de ce cœur. Elle a vécu sa vie dans le Sacré-Cœur et dans la retraite qu'elle fait à la fin de sa vie, sentant sa mort prochaine. Elle ne fait pas venir ses enfants comme le riche laboureur, mais sentant sa mort prochaine, elle fait sa retraite pour se préparer à la mort. Et dans cette retraite, elle a cette prière si belle où elle dit « Je suis insolvable. Jamais, Seigneur, je ne pourrai te rendre tout l'amour que tu m'as donné. Jamais je ne pourrai réparer tous les manques d'amour, toutes les froideurs, toutes les distractions, toutes les tiédeurs qu'il y a eu dans ma vie. Jamais je ne pourrai faire ça. Je suis insolvable. » Alors, il faut, comme châtiment, c'est pas le mot qu'elle utilise, mais le mot m'échappe, peu importe. Il faut que tu m'enfermes dans ton cœur. Et c'est là que tu dois me mettre, dans la prison de ton cœur pour l'éternité. Là, je veux bien y être. Et pour, elle dit, comme pour payer ma dette, cette dette que je ne peux pas payer, alors je serai enfermé dans ton cœur pour l'éternité. Et bien voilà le grand désir de Sainte Marguerite Marie, être enfermée dans le cœur de Jésus, demeurer dans le cœur de Jésus, être protégée, aimée, brûlée dans le cœur de Jésus pour l'éternité. C'est la grâce qu'elle porte pour l'Église, comme le manifeste sa vie, son histoire, enfin ce qu'on peut lire même dans l'histoire de sa vie et dans l'histoire de son héritage, mais c'est aussi ce qu'elle porte encore aujourd'hui. Jésus l'a fait héritière de son cœur par un acte notarié de la nuit du 31 décembre 1688, où Jésus lui dit qu'il la constitue comme héritière de son cœur et qu'elle peut puiser dans les trésors de son cœur pour le temps et pour l'éternité, et qu'elle doit être généreuse et qu'elle doit en faire profiter les autres. Nous sommes ses autres, nous désirons qu'elle soit généreuse, et elle est pour l'éternité et pour le temps, celle qui puise à pleine main dans le cœur de Jésus, parce que Jésus ainsi l'a voulu. Alors, chers frères et sœurs, eh bien, entrons maintenant dans ce temps de vénération des reliques, dans ce temps où nous nous approchons de notre sœur, où nous venons profiter de ce charisme. Elle a reçu cette grâce pour le bien de tous, ses grâces pour le bien de tous, pour notre bien, pour nous qui sommes ses petits frères, ses petites sœurs, et qui désirons venir recevoir, nous accrocher à un morceau de son manteau pour recevoir nous aussi une part de grâce qu'elle a reçue. Que chacun puisse nourrir sa prière à partir de tout ce que je viens de vous dire, et que Sainte Marguerite Marie, sois généreuse, Jésus te l'a demandé, il faut lui obéir.